On commence par les intempéries dans les Alpes-Maritimes, des pluies diluviennes, une crue soudaine.
C'est une liste inquiétante qui s'allonge. Lille, Grenoble, Saint-Étienne et Lyon passent donc en rouge écarlate sur la carte de France.
Si la situation sanitaire s'aggrave encore, les présidents d'université pourraient proposer de fermer seulement certains niveaux d'études ou certaines facultés.
La situation pour le sport français, pour le football français est catastrophique.
Waouh ! Le premier média d'info positif pour les enfants entre 8 et 12 ans.
Ça n'arrive pas si souvent. Une bonne nouvelle pour démarrer ce journal. Sophie Pétronin est libre, la dernière otage.
La France, frappée par le chômage. Près de 8,9% ce mois-ci. Toute la France ? Non, une ville vendéenne résiste. Les Herbiers, 5% de chômage.
Nous sommes au mois de juin. Nicolas Kasprick marche sur la plage du Palu à Plouas avec son détecteur de métaux. Soudain, vers midi,
ça fait bip bip.
Entre les galets et le sable apparaît une alliance. Le chercheur de métaux décide de publier la photo de sa découverte sur Facebook et en quelques heures à peine, magie des réseaux sociaux, la propriétaire de la bague est identifiée.
Here's a little song I wrote. You might want to sing it note for note. Don't worry. Be happy.
Et merci à Jean-Christophe Francis pour ce petit montage. Le journalisme peut-il être autre chose qu'anxiogène ? Son cœur de métier est-il d'apporter des mauvaises nouvelles ou de décrire un monde rempli de catastrophes ? Une expérience réalisée en 2014 par des chercheurs de l'Université du Texas aux États-Unis montre que les lecteurs ont le sentiment d'être mieux informés quand ils ont sous les yeux un article orienté solution. Et selon une enquête pour la BBC fin 2015, 64% des participants de moins de 35 ans veulent que les médias apportent des solutions aux thèmes traités. Eh bien, à l'occasion, lundi, d'une grande opération baptisée la France des solutions, qui engagera 50 médias, dont plusieurs chaînes du groupe Radio France, Zoom sur ce journalisme de solutions, en compagnie de notre invitée Anne-Sophie Novel. Bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes journaliste indépendante, vous avez travaillé pour Le Monde, Le 1, LCI, Public Sénat ou encore Hebdo. Vous êtes l'autrice d'un documentaire sur la relation des Français aux médias et sur les pistes pour changer de modèle intitulé « Les médias, Le Monde et moi », un documentaire qui a ensuite fait l'objet d'un livre paru l'année dernière chez Actes Sud. Question toute simple, basique pour commencer, qu'est-ce qu'on appelle le journalisme de solution ? Il est souvent associé à un journalisme de bonnes nouvelles, on entendait d'ailleurs dans ce montage un mélange de bonnes et de mauvaises nouvelles. Est-ce que c'est à tort, Anne-Sophie Novel ?
Mais je pense qu'il y a différentes terminologies. Donc, en effet, il y a journalisme d'impact aussi, journalisme de réponse, journalisme d'antidote. Donc, c'est déjà sémantiquement difficile à cadrer. Cette difficulté sémantique est telle que pendant une quinzaine d'années où il a été promu en France, ben, on l'a compris un peu de travers en imaginant qu'il s'agissait juste de l'opposer au journalisme traditionnel, je dis ça entre guillemets, qui pour beaucoup et souvent pour le public, paraît très anxiogène. Or, moi, dans mon enquête, j'ai été voir les réseaux à l'étranger qui travaillent sur cette forme de journalisme, alors on va dire deux solutions, mais en essayant de le cadrer un petit peu plus, d'offrir une méthodologie et de montrer qu'en fait, il ne s'agit pas d'un journalisme de bonnes nouvelles où on mettrait juste en avant des héros ou des initiatives positives, mais il s'agit, lorsqu'on fait une enquête, une investigation où on met la plume dans la plaie, mais de pas s'arrêter à juste révéler des faits qui demande des comptes aux puissants. Il s'agit de prolonger l'enquête pour essayer de montrer ce qui est fait sur le terrain, localement ou à l'étranger, pour apporter des réponses aux problèmes que l'on a révélés. Mais ces réponses peuvent marcher ou ne pas marcher. Il s'agit donc de voir ce qui est fait en réaction à ce dont on parle. Et donc, pour moi, c'est un outil dans la mallette journalistique qui peut être utilisé sur certains sujets, pas systématiquement, Mais il s'avère que lorsque l'on complète bien son enquête de cette manière, qu'on révèle en fait l'autre côté de la médaille, eh bien les gens se sentent un peu moins accablés, réalisent que l'on peut faire quelque chose et ça leur donne une espèce d'empouvoirment, comme on dit là, avec ce terme. Mais c'est, pour moi c'est ça la définition.
Éric Reynard, est-ce que le journalisme, je sais pas, comme le roman, parce que c'est une idée reçue en tout cas, peut être autre chose qu'anxiogène et apporter de mauvaises nouvelles ? Est-ce que son rôle n'est pas de porter la plume dans la pluie, effectivement, comme le disait Albert Londres ?
Non, mais je pense que on voit bien qu'il faut changer des choses. On voit bien qu'il faut
modifier nos comportements. On voit bien qu'on doit se positionner sur un certain nombre de sujets. On le voit avec la 5G, là, par exemple. Et donc, je pense que aujourd'hui, enfin, avec le changement climatique et tout ça, enfin, on doit changer des choses. Et ces initiatives, elles doivent être personnelles dans nos vies à tous. Et on a besoin d'être éclairés. C'est tellement complexe. On est soumis à des flux d'informations tellement contradictoires qui émanent des réseaux sociaux, mais aussi de la presse, des médias, des chaînes d'information continue, que c'est vraiment très difficile souvent de savoir voilà ce qu'on doit faire, ce qu'on doit penser. Et en effet, ce journalisme qui analysant les choses et synthétisant propose aussi des solutions ou indique des voies à suivre, je pense qu'on en a vraiment besoin.
Anne-Sophie Novel, est-ce que ça voudrait dire que le journaliste doit être un guide ?
Je ne sais pas s'il doit être un guide, mais pour moi, il doit changer de posture au XXIe siècle. Rick Renait le dit bien, on a en fait un ensemble d'enjeux qui se présentent à nous, de défis assez uniques. Et on ne peut pas continuer à exercer notre métier comme on l'a toujours fait. Je pense qu'il faut d'un côté revenir aux fondamentaux du journalisme, c'est-à-dire à la bonne investigation, ce qui signifie d'avoir de l'argent et du temps. Et ça, le système de la fabrique médiatique, bah, aujourd'hui, a un peu réduit comme peau de chagrin les moyens qu'on avait autrefois pour faire ce type de journalisme. Donc il y a un problème un peu structurel. On doit aussi renouer avec le public, c'est-à-dire dans une forme de conversation où on n'est plus à l'écoute d'un ressenti, parce que même si l'information n'est pas qu'anxiogène, ce ressenti existe et de plus en plus de personnes sont complètement perdues dans une véritable crise de foi vis-à-vis de l'information. Et tout ça doit nous inviter à réfléchir et à prendre de nouveaux engagements. Je suis beaucoup, donc, par exemple, ce que fait le Guardian avec Catherine Wiener, qui est sa rédactrice en chef, et elle a fait des très belles tribunes depuis 2 ans pour expliquer à quel point il fallait être à l'écoute de ses lecteurs, à quel point le journal, en allant regarder les valeurs qu'il porte depuis toujours, devait au XXIe siècle partir sur de nouveaux engagements, réaffirmer des choses. Elle a travaillé sur la façon dont il parle et définissent les termes d'urgence climatique, de rapport à la biodiversité, au négationnisme, etc. Et il continue d'appuyer là-dessus en disant « c'est notre rôle que de bien vous informer, de vous éclairer correctement et surtout de nous engager en tant qu'entreprise de presse en prenant nos propres responsabilités et en vous montrant l'exemple. » Et ça, pour moi, c'est un peu nouveau aussi de se dire « nous ne sommes pas hermétiques à tout ça ». Et donc ça commence à pousser un petit peu en France, mais c'est pas tant un guide qu'un médiateur. En fait, moi c'est un peu ça, c'est quelqu'un qui permet d'avoir un espace de conversation qui n'est pas là que pour attiser des polémiques, pour mettre de l'huile sur le feu, de querelles en fait, qui ne nourrissent personne d'un point de vue intellectuel, mais justement pour poser les faits, questionner, et donc du coup ça implique peut-être dans cette posture journalistique ne pas forcément se poser uniquement sur le rapport à l'actualité présente, mais aller investiguer un petit peu plus loin sur les possibles qui se présentent à nous.
Oui, c'est aller plus loin, Eric Reinhardt.
C'est comme si le journaliste, alors, se faisait aussi un peu éditorialiste. C'est-à-dire qu'il hybridait, puisqu'on parlait d'hybridation tout à l'heure, le travail journalistique et l'éditorialisation. Parce qu'en fait, c'est un peu aussi la fonction de l'éditorial dans les journaux, de proposer un éclairage, de donner une voix.
Anne-Sophie Novel.
Je pense que le côté éditorial, oui et non, parce que souvent le public estime que les éditorialistes, justement, ne sont pas...
Leur disent quoi penser.
Voilà, exactement. Et du coup, c'est pas tout à fait le principe. C'est-à-dire, c'est une forme d'engagement, un pacte de confiance qu'il nous faut renouveler, où le journal dit, bah voilà, nous avons décidé d'éclairer de telle manière, de nous engager à bien vous informer sur tel sujet, et régulièrement, nous allons vous faire des points d'étape sur cette façon d'avancer sur notre pratique. On va ouvrir la rédaction avec transparence, on va vous rendre des comptes, nous aussi. Et y a des journaux qui commencent à le faire et à bien le faire. En fait, il y a eu plusieurs éléments. Il y a eu le Brexit, l'élection de Trump, ensuite on a eu les Gilets jaunes, il y a eu plein d'événements médiatiques comme ça où il y a eu des secousses, en fait, dans la profession, dans le public. Il y a eu une défiance qui est sortie des écrans, qui est une haine où on s'est rendu compte que des journalistes se sont fait conspuer lors de manifestations. Et ça a été un vrai coup de massue sur la tête de nombreux journalistes dans la profession. Et du coup, ça a provoqué plein d'initiatives, de rencontres sur les territoires. Je pense à la Voix du Nord, mais Centre France a aussi fait ça avec le groupe La Montagne. Et donc, du coup, c'est avec La Montagne, pardon, le groupe Centre France. Mais du coup, ça montre qu'il y a une écoute qui se développe de plus en plus et une façon peut-être d'envisager les choses autrement. Et là, avec la Covid, on a bien vu aussi que les rédactions ont dû s'organiser différemment et être à l'écoute des besoins du public. Donc je ne dis pas qu'il faut que ce journalisme-là, parce que sinon on peut aussi s'enfermer dans l'attente du public, mais c'est important d'engager cette conversation. Et dans une société où la démocratie fonctionne quand même un peu de travers de temps en temps, le média peut aussi réoffrir un espace de discussion, de conversation et de médiation pour le coup, pour essayer d'avoir un débat apaisé et qui nous enrichit tous mutuellement.
Anne-Sophie Novel, vous preniez un certain nombre d'exemples. On peut ajouter Nice Matin, qui a décidé de demander à ses abonnés, carrément, de quoi ils envie et comment traiter cette actualité. Alors, est-ce que vous diriez, pardon, juste sur Nice Matin, par rapport aux autres, est-ce que vous diriez, vu les exemples que vous avez donnés, que la presse régionale, de ce point de vue-là, est en avance sur la presse nationale?
En tout cas, la presse locale a subi ces fameuses secousses de manière très intense. C'est peut-être même encore plus compliqué qu'au niveau national. Il y a une énorme concurrence avec les médias nationaux. Or, la presse locale souvent fait un travail de première main qui est ensuite repris par la presse nationale. Ils ont été obligés de se renouveler un petit peu. Et ce que Nice Matin a fait, c'est au départ, sur la partie numérique, de dire on va développer un autre type de relation à nos lecteurs, on va créer une forme de club, de communauté, on va leur proposer de venir échanger avec nous, d'ouvrir la rédaction, de les faire participer. Et au-delà de ça, quand on a un dossier à traiter dans la semaine, à la sortie de la conf de rédac, on leur proposera les trois sujets sur lesquels on hésite, auxquels on a pensé, et on leur a demandé de choisir. Donc c'est pas je choisis ce que je veux, c'est la rédaction pense que ces sujets sont intéressants, et vous, qu'en pensez-vous? Et ce qui ne signifie pas que les sujets qui ne sont pas choisis ne sont pas explorés non plus. Mais ce qui se passe, c'est qu'en presse locale, il y a plein de belles initiatives qui se font, mais ça reste quand même des modèles un peu compliqués à trouver. Mais la presse locale, en fait, elle reste vitale. Aux États-Unis, on parle de désert médiatique. C'est une vraie crise, en fait, qui n'est pas encore arrivée de manière aussi frontale en France, mais qui commence à arriver quand même. Et on a montré que lorsque un média local disparaît, cela a des conséquences sur les votes des habitants, et donc du coup ça peut changer, c'est pas induire des biais dans leur façon de comprendre la réalité et les solutions qu'on peut apporter, parce qu'en local ils ne sont plus éclairés de manière effective.
Puisque vous disiez que c'était aussi ce journalisme de solution ou d'impact, ou utile on dit parfois aussi, une manière de cadrer l'actualité sous un autre angle et ne pas se contenter de décrire les problèmes mais d'apporter des réponses, prenons l'exemple que vous avez vous-même utilisé, Anne-Sophie Novel, sur la couverture de la crise sanitaire. Quel journalisme de solution pourrait-on appliquer à ce cas précis, en un mot?
En fait, déjà, il faut essayer de prendre du temps pour comprendre les faits. Et ça, je pense que les journalistes l'ont bien fait, les rédactions se sont organisées. Donc, il y a eu d'abord cette phase de fact-checking, vérification des faits. Qu'est-ce qu'on nous raconte, comment on nous le raconte, comment discerner le vrai, entre guillemets, du faux. Il y avait une masse infinie de fakes qui ont circulé, de fausses informations, et tout le monde a cru bon prendre part à un débat qui n'était pas forcément solidifié en termes factuels. Et ensuite, quand on arrive à prendre du recul, c'est se dire où en est l'état des traitements en France comme à l'étranger, comment les gens se sont organisés pendant la crise, par exemple, quelles initiatives ont pu naître de solidarité, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui a moins marché. Et donc là, le média, en faisant ce relais-là, permet de dupliquer aussi, de donner des idées.
Et donc, effectivement, ne pas cesser de s'interroger, Anne-Sophie Novel. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir participé à cette fabrique médiatique. Les médias, le monde et nous, c'est chez Actes Sud. Le documentaire est également disponible sur la plateforme DocsTV et une projection est prévue à Pessac lundi au cinéma Jean Eustache.